Vous écoutez l'émission Paradoxa et les 20h sur Radio Campus Paris.
Paradoxa, questionner les pratiques culturelles et médiatiques à travers les sciences de l'information et de la communication. Actualité, entretien et analyse, tous les deux mois, le mardi à 20h sur Radio Campus Paris. Une émission présentée par Ilona Prieur.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Paradoxa. Ce soir, nous allons parler de l'histoire du cinéma et de ses évolutions avec l'arrivée de nouveaux modes de communication. Le 28 décembre 1895, les citoyens ont pu assister à la première projection cinématographique publique organisée par les Frères Lumière. Un nouveau dispositif voit le jour, le cinématographe. Pendant près de 30 ans, les premières images données à voir au grand public étaient diffusées sans son. Mais 1927 signe l'arrivée dans les salles du premier film parlant, The Jazz Singer. Aujourd'hui, l'apparition du numérique et l'émergence des plateformes transforment l'industrie cinématographique. Un nouveau paysage s'offre à nos yeux, celui des catalogues à notre disposition sur nos petits écrans. Les modes de diffusion occupant l'espace cinématographique contribuent à la création de films et séries chaque année. Mais c'est également l'émergence de nouveaux modes de narration qui contribuent à transformer les industries créatives. Au programme ce soir, une série d'extraits d'une interview du philosophe et précurseur de la médiologie, Régis Debray, ainsi que du cinéaste Robert Guédignan, également président de la Cinémathèque de Toulouse, à l'occasion du festival Histoire de cinéma de 2017, animé par Christian Toral, qui est directeur de la librairie Ombre Blanche. Des extraits de la conférence de Mélanie Bourda, maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne, nous permettront également de comprendre plus concrètement comment agit cette manière dynamique et interactive de créer du storytelling autour d'œuvres cinématographiques. Je vous parlerai ensuite des grands enjeux du transmédia au cours d'une chronique alimentée par les témoignages de professionnels qui travaillent au sein de la société de production MediaOne. Merci d'être avec nous dans Paradoxa sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission.
Paradoxa sur Radio Campus Paris 93.9.
Régis Debray, vous êtes, on vous a pendant quelques années, on ne sait pas, pour moi en tout cas je ne sais pas où vous étiez dans les années 70, mais on va dire que là c'est le libraire qui parle, on voyait vos livres, notamment des livres au Seuil ou le Scribe chez Grasset, et vous êtes revenu sur le devant de la scène, si j'ose dire. Pardon, enfin, vous ne l'avez jamais vraiment quitté, mais vous avez avancé quelques pions avec le livre chez Ramsay, Le pouvoir intellectuel en France. 79, je pense que pour vous, ça a été un retour dans un autre domaine dans lequel vous avez, auquel vous avez largement contribué, notamment en créant cette médiologie et les cahiers qui ont suivi, et puis la revue maintenant que vous animez depuis bien quelques années, qui est Medium. Depuis quand même, depuis le pouvoir intellectuel en France, depuis les cahiers de médiologie, ou en même temps, il y a quelque chose qui a poussé et qui n'est plus tout à fait, qui a laissé les médias parfois sur le bord de la route. Et ce sont les écrans. Donc c'est cette domination aujourd'hui, on va dire, plus indistincte, plus insidieuse, plus fragmentée, plus ce qu'on voudra. Est-ce qu'il y a, selon vous, et la question je te la pose aussi, est-ce qu'il y a un horizon d'émancipation de ce qui aujourd'hui, quand même, d'une certaine manière, nous a servi considérablement?
C'est à moi ou à lui?
C'est à vous deux. C'était la règle du jeu, je vous rappelle.
Alors écoutez, le pouvoir intellectuel en France, oui, c'est là où j'ai inventé le mot de médiologie, qui n'est pas du tout la sociologie des médias, qui est l'étude simplement de ce qu'on appelle l'efficacité symbolique, c'est-à-dire on dit toujours les idées, ce sont les idées qui font l'histoire. Je pose la question, comment font-elles? Bon. C'est-à-dire quelle est la puissance des mots, la puissance des images, comment passe-t-on d'une émission symbolique, par exemple ce qu'on fait en ce moment, à une action individuelle, collective. Bref, comment ça marche, quoi. Et alors effectivement, j'avais été très agacé d'entendre toujours que les intellectuels étaient contre le pouvoir. C'était très, très Foucault. Hein. Un intellectuel est un homme aux mains blanches, dos au mur et les mains blanches, qui lutte contre le pouvoir. Bon, mais moi, je dis, mais attendez, mais il n'y a pas un pouvoir intellectuel. Et là, je me suis aperçu que l'intellectuel était quelqu'un de très particulier, qui avait ses hiérarchies, qui avait ses institutions, qui avait son carriérisme, qui avait, enfin, qui était un système de pouvoir que j'essaie de reconstituer, disons, depuis le 19e siècle. Alors ça, ça n'a pas été très bien reçu. Et puis, c'est passé aujourd'hui, l'expression pouvoir intellectuel est devenue, elle est passée dans les mœurs. Et pour aller vite, pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui a un projet d'influence. Bon. Et ce projet d'influence, c'est-à-dire qu'il veut changer l'opinion des autres, mais pour qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils font. Donc c'est quelqu'un qui a un projet, je dirais, de prédication, si l'équivalent de ce que du prêche d'un prêtre. Donc c'est pas du tout un moine, c'est pas du tout un savant, c'est pas un poète, c'est quelqu'un qui a une visée pragmatique. Il veut faire bouger les choses. Comment il faisait bouger les choses et les gens? Par l'écrit, par le journal. C'est le Jacques de Zola, archétype et tabou de la corporation. Jacques, 1898, je crois. Et c'est très frappant parce que quand vous regardez la une de l'Europe, il n'y a évidemment aucune image. Aucune. Évidemment, pas de photo, mais il n'y a aucune image. Et c'est en caractère serré. Vous avez l'impression, si vous l'avez, pas si vous l'avez certainement vu, c'est cinq colonnes, il faut prendre une loupe. Enfin, c'est vraiment un effort d'attention. Enfin, c'est inimaginable aujourd'hui. Alors, c'est drôle, tout le monde dit Zola éjacule, mais le support matériel n'est pas le même. Alors, effectivement, l'image est venue. L'image est venue, elle était peinture, elle est devenue ensuite photo. Je pense que l'invention photographique est un changement anthropologique. Je pense que Niepce et Daguerre ont amorcé une nouvelle période que j'appelle la vidéosphère, c'est-à-dire il n'y a plus de symboles, il y a des indices, c'est-à-dire des empreintes directes des choses qui sont enregistrées, qui ne sont plus symbolisées. C'est-à-dire que le mot « chien » ne ressemble pas à un chien, mais la photo d'un chien ressemble à un chien. Donc il faut à un moment donné, c'est ce qu'on appelle chez les sémioticiens la fin de la coupure sémiotique, on passe du symbole au signal. Et donc il faut que tout soit en direct et, disons, ça pose pour l'écrit quelque chose, déjà une infériorité par rapport à l'image comme moyen d'action. Et j'ai pour Guédiguian un sentiment de jalousie qu'il ignore, mais qui est considérable. Parce que j'aurais voulu être cinéaste. J'avais tout fait pour, puis bon, ça n'a pas marché, in extremis, je ne vais pas revenir sur les détails. Mais aujourd'hui, ceux qui exercent une influence, c'est des gens comme lui. Ce n'est pas des gens comme moi. Parce que l'image parle, elle émeut, surtout quand elle se combine avec la musique. Elle donne des sensations, des émotions, quelque chose qui se grave. Quand on parle aujourd'hui du milieu ouvrier, moi je pense aux films, à ces films. Ils me font revivre un milieu, ils m'en donnent sans doute la nostalgie, ils m'en donnent le sentiment, et donc là, il y a un effet sur moi. Les livres n'ont plus d'effet. Sinon, dans un petit milieu intellectuel très limité, universitaire, journalistique, mais voilà, je meurs de jalousie envers Robert Guédiguian et d'autres cinéastes, parce qu'aujourd'hui, c'est le métier qu'il faut faire. D'abord, il parle à tous, hein. Il est international, une image peut-être comprise, sous-titre ou pas, par tout le monde. Une photo, ça parle à tout le monde. Un poème de Valéry, non. Ou un livre de Gilles Deleuze, non plus. Il faut que ce soit traduit, c'est compliqué, généralement les traductions sont mauvaises. Enfin, ça, lui, il touche 100 000 personnes, quand moi j'en touche 1000. Tu comprends que je te regarde avec un ressentiment immense, parce que j'ai conscience de mon inutilité. elle n'est pas seulement politique, mon inutilité, là, elle est avérée, mais elle est, je dirais, esthétique et affective. Parce que moi, un film, ça m'émeut généralement. Je suis trop bon public, j'y vais pas trop super parce que je pleure tout le temps. Mais un livre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'émeut rarement. Et je trouve que c'est l'émotion qui fait bouger et c'est l'émotion qui reste. Voilà. Et c'est vrai que le cinéma a changé de nature et de sphère parce qu'on évoquait les années 60 qui étaient un peu l'âge d'or des ciné-clubs. L'âge d'or de la cinéphilie, on peut dire, qui était très détaché du domaine commercial. On a l'impression... Et puis c'était adossé tout de même à des forces politiques, à des mouvements syndicaux, politiques. Et donc, il y avait, je dirais, une sorte de... Non pas de subversion, mais de contre-société cinématographique qui s'exprimait par le cinéma, mais qui dépendait d'une contre-société qui était en gros le mouvement ouvrier. Ça n'existe plus.
Non, ça faisait son public d'ailleurs aussi. Hein? Ça faisait que ce cinéma-là avait du public. Oui. C'était aussi le...
Oui. Ouais.
Qui est toujours le nerf de la guerre, quand même, parce que le public, ça reste quand même un art très cher, quoi qu'il arrive. Même quand c'est pas cher du tout, même un film pas cher du tout, c'est très cher.
Donc on n'imagine plus la CGT commandant un film à Jean Renoir, ou un Jean Renoir d'aujourd'hui, ou le Parti communiste qui passait des commandes de films, de Le Chanoine, un certain nombre de gens, hein, aussi bien sous le Front populaire qu'après la guerre. Ça, ce monde-là a complètement disparu. Il y a une atomisation de la société, à la fois par la miniaturisation des objets et des prothèses, qui peut déboucher sur un chacun pour soi, chacun chez soi. Chacun pour soi comme dans un naufrage, disait je ne sais plus qui. C'était Marcel Duchamp. Et donc, il est vrai que le numérique a tout de même de formidables avantages et apports, et il fait sans doute éclater les solidarités. Éclater les communautés. Or, disons, il n'y a plus d'autres communautés bientôt qu'ethniques ou religieuses, parce que les communautés culturelles tendent à disparaître, puisqu'on n'est plus ensemble dans une salle. C'est vrai que l'invention du cinéma, c'est Lumière et pas le kinétoscope inventé par Edison, parce que pour Edison, on est seul devant l'écran, alors que Lumière a inventé la salle de cinéma. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on peut craindre ou on assiste déjà à une sorte de, comment dirais-je, de décomposition du tissu social et créatif comme ça. Mais c'est aussi un espace de liberté qui est donné à la créativité, à l'immédiateté, à l'interactivité. Enfin bref, en tout cas, c'est un changement considérable. Maintenant, pour le cinéma, laisse-moi te dire une chose. Un peu en citant Malraux, pas la phrase célèbre, mais à un moment donné, il a dit, parlant des lecteurs et parlant de la littérature, il a dit, mais au fond, il restera toujours une secte. Une secte. Moi, je crois que dans le cinéma aussi, oui. Il y a des cinémas, il faut, si tu veux, admettre qu'il y a différentes sphères d'existence du cinéma et qui, me semble-t-il... Il y aura plusieurs cinémas, si tu veux, plusieurs registres, n'est-ce pas, qui peuvent coexister.
Restez avec nous sur Radio Campus Paris, on se retrouve juste après une petite pause musicale.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. J'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
Nous venons d'écouter la dernière séance de Eddie Mitchell. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. On se retrouve tout de suite.
Paradoxa sur Radio Campus Paris 93.9.
Bien évidemment, l'exemple le plus énorme de stratégie transmédia avant que Internet n'existe, c'est Star Wars. Donc quand les premiers sont sortis, George Lucas avait pensé, avait imaginé déjà une stratégie d'extension de la narration. Et en l'occurrence, ils ont créé 150 prints autour de, donc des comics ou des romans. Alors, ce ne sont pas des adaptations, c'est bien du transmedia storytelling qui rajoute des éléments sur la communauté Jedi ou les Sith ou sur des personnages qui sont seulement évoqués en fait dans les films qu'on ne voit pas forcément, voilà, ou sur des relations entre des personnages ou sur des planètes. Ils ont créé une 50aine de jeux vidéo, ils ont créé des séries animées, ben Clone Wars par exemple fait le lien entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Ils avaient créé des séries télé sur les Ewoks. Par exemple, parce que les Ewoks, on les voit que dans l'épisode Return of the Jedi, et ils aident la rébellion à combattre Dark Vador et les Stormtroopers, mais on ne sait pas comment ils vivent sur leur planète. Donc si on voulait voir ça, ben, il fallait regarder la série télé. Donc voilà, tout cet écosystème, ça s'appelait l'univers étendu de Star Wars, et c'est un exemple assez édifiant de transmedia storytelling avant l'heure.
Chers auditeurs, dans cette chronique, je vais vous parler du transmedia storytelling, ou narration transmedia, théorisée par le chercheur Henry Jenkins en 2003. Voici sa définition exacte. Le transmedia storytelling est un processus durant lequel les éléments d'une fiction sont dispersés systématiquement sur plusieurs supports dans le but de créer une expérience unifiée et coordonnée. Idéalement, chaque médium propose une contribution unique au déroulement de l'histoire. Si ces termes peuvent vous paraître un peu flous, vous pouvez voir de nombreux exemples chaque jour dans votre vie quotidienne. On va utiliser des dispositifs complémentaires qui vont créer tout un univers autour d'un film, d'un jeu vidéo ou encore d'un livre par exemple. C'est notamment le cas pour des sagas très connues comme Star Wars, Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux qu'on a pu voir adapté sur de nombreux supports. Aristote décrivait les histoires comme ayant un début, un milieu et une fin. Le transmédia revisite cette temporalité en permettant de raconter des histoires autonomes cohérentes par le simple fait que le public entre dans cet univers fictionnel qui lui est familier. Les arcs narratifs forment une constellation d'histoires dont le centre est l'univers et les codes imaginés par les créatifs. Lorsque l'on parle d'adaptation, il s'agit d'un transfert d'un univers narratif vers un autre moyen de communication. Or, le transmédia correspond davantage à l'expansion et la diversification d'un univers fictionnel pour le rendre d'autant plus complet et attractif pour les spectateurs. C'est une technique en somme de storytelling utilisée à des fins commerciales, pédagogiques ou ludiques qui se déploie à travers donc plusieurs canaux de communication. Concrètement, à quoi ça sert ? Ça permet de créer un sentiment de communauté, mais c'est également un puissant outil marketing qui répond à un besoin des industries culturelles et plus généralement des entreprises de capter l'attention du public et du consommateur. À l'heure où les contenus foisonnent autour de nous, notre temps d'attention est devenu monétisable et représente une richesse non négligeable pour les industries créatives. Au-delà des fictions, c'est un moyen pour les entreprises de créer une marque puissante capable de transmettre les valeurs qu'elles souhaitent à son public cible. Les modes de narration n'ont cessé de changer à travers les siècles avec l'apparition de nouveaux modes de communication depuis la presse jusqu'au numérique. En somme, chaque média possède des structures narratives qui lui sont propres pour toucher son public. Aujourd'hui, le fait de les combiner permet d'avoir une déclinaison de la même histoire qui vont rendre les histoires d'autant plus complexes. Avec l'apparition de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, ces expériences sont plus immersives et créent une dimension sensorielle nouvelle pour appréhender les récits narratifs. Cela pose notamment la question des transformations que l'on va pouvoir voir apparaître dans le paysage audiovisuel pendant ces prochaines années. L'interactivité produite par ces nouveaux modes de narration semble transformer le spectateur en spect-acteur. Cela transforme donc le modèle initial, qui était auparavant vertical, en modèle horizontal, c'est-à-dire un modèle où le spectateur devient actif dans la narration. C'est ce que l'on peut voir notamment à travers les communautés de fans qui s'emparent de grands classiques comme la saga Harry Potter pour créer de nouvelles histoires autour d'un axe narratif principal. Quel est l'avenir de ces modes de narration multiples et interactifs ? Concrètement, comment le cinéma se nourrit-il d'autres médias comme les jeux vidéo ? Et à quoi ressemblent les processus de création dans les industries créatives ? Restez avec nous sur Radio Campus Paris pour découvrir la suite de l'émission. Tout de suite, Louise et Pauline, qui sont chargées de production et de développement à Media One, une société de production en plein essor en France, me livrent leur vision de la création cinématographique française.
Paradoxa, sur Radio Campus Paris. 93.9.
Moi, je m'appelle Louise Lepuloc, je suis chargée de production et de développement dans une société qui s'appelle French Kiss Pictures, qui fait partie du groupe de Media One. Et nous, on fait principalement de la fiction, de la série ou du long métrage. Et mon boulot à moi, comme mon intitulé de poste le sous-entend, je suis un peu un couteau suisse. C'est-à-dire que je m'occupe autant de la production qu'on va appeler exécutive, donc c'est les mains dans le cambouis, faire des contrats, du juridique, de la compta, gérer des équipes, etc., des subventions, des trucs comme ça. Et l'autre côté, la partie développement, c'est plutôt de la production qu'on va appeler artistique, où en gros, je vais faire des rendez-vous avec des auteurs, des retours sur des bibles, des retours sur des montages, toute la partie artistique qu'on peut imaginer dans la télé, le ciné, c'est à peu près la même chose. Du coup, j'ai un boulot qui allie les deux, autant du développement que de la production exécutive.
Ok, donc du coup, comment ça se passe exactement, la création ?
Après, chaque société de production est spécifique. Et nous, par exemple, dans notre société, on est deux. Donc, il y a une productrice, Aurélie Mémon, qui est ma patronne, et moi. Et globalement... Soit on arrive avec une idée de prod en disant on a envie de travailler là-dessus et on propose un concept soit à une chaîne, soit directement à un auteur. Sinon, il y a une chaîne qui peut nous contacter, c'est quand même un peu plus rare, avec un appel à projet. À partir de là, on se dit bon, ok, qu'est-ce qu'on peut proposer pour la Formule 1, pour telle chaîne, pour tel truc, tel format. Et là, on va avoir des auteurs. Et la voie qui me semble la plus classique, c'est un auteur qui arrive avec une idée et qui nous fait confiance en nous disant « cette idée que j'ai eue, est-ce qu'elle vous plaît ?» Si on dit oui, on travaille avec lui. et on la formate pour la vendre ensuite à un diffuseur qui peut être une plateforme, une chaîne classique ou du digital, voilà. Enfin, il y a toutes les plateformes différentes et tu construis pas une bible. C'est comme ça qu'on appelle un dossier de vente en télé. Une fois que tu écris un scénario, faut arriver à pouvoir le construire comme une bible. Donc tu as un pitch, généralement le synopsis de la saison, le concept, les personnages, tout ça. Et tu le construis pas forcément de la même manière en fonction du diffuseur à qui tu le proposes.
Donc les idées de création peuvent venir des auteurs, mais on voit que ça vient aussi aujourd'hui des jeux vidéo. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus du processus de création, plutôt du côté des séries du coup ?
Du coup oui, t'as raison, j'ai oublié une des parties, c'est l'adaptation. Donc ça peut être des bouquins, des films qui peuvent être adaptés en série, mais aujourd'hui on a beaucoup, de plus en plus de jeux vidéo qui viennent à être adaptés en série, en film. Ou quoi, ou qu'est-ce avant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense qu'il y a encore 20 ou 10 ans, c'était le contraire. C'était des grosses licences qui étaient adaptées en jeux vidéo. Par exemple, tous les Star Wars ont été adaptés de près ou de loin en jeux vidéo. Les Harry Potter, tu pouvais y jouer quand t'étais petit, on les a tous connus. Les Titeuf, on a eu pléthore de jeux vidéo adaptés de grosses licences audiovisuelles, et maintenant c'est un peu plus le contraire. Parce que dans le monde du jeu vidéo, on développe des jeux qui sont extrêmement scénarisés, comme The Last of Us, qui vient de sortir sur HBO, ou encore The Witcher, qui a... Bon, ça c'est pas particulier parce que le jeu est adapté d'un bouquin à la base, mais c'est vraiment le côté jeu vidéo qui a été adapté à l'écran, et pas le bouquin. Enfin, je pense que si ça n'avait pas été un jeu vidéo, ça n'aurait jamais été adapté dans ce sens-là. Et... Il y a Uncharted qui a été adapté au cinéma, donc c'est plutôt un film. Il en existe plein et ça continue. Et je pense qu'il va en exister de plus en plus, à tel point que, par exemple, chez Ubisoft, qui est une grosse boîte de jeux vidéo, ils développent chez eux une entité qui est vouée à construire des bibles, comme je disais tout à l'heure, mais directement avec leurs produits. Au lieu de démarcher une boîte de production directement audiovisuelle, ils vont essayer de faire ce travail en interne pour... aller directement au diffuseur en disant en fait nous on sait la force qu'on peut avoir et l'opportunité qu'on peut avoir à adapter ces jeux directement en série, en film, en tout ce que tu veux. Et du coup après démarcher eux-mêmes.
Ok, du coup ils recréent vraiment des corps de métier au sein même des entreprises qui ne sont pas forcément spécialisées là-dedans.
Ben c'est ça, dans la série par exemple, un des métiers qui est très important au développement, c'est le directeur littéraire qui va accompagner ton récit du début à la fin, tes auteurs. C'est un peu particulier, c'est pas vraiment un producteur, mais c'est pas vraiment un auteur, c'est quelqu'un qui est là vraiment pour accompagner ton récit du début à la fin, proposer des idées sans changer l'âme de ton projet, c'est vraiment de l'accompagnement. Et de plus en plus, ces métiers-là deviennent utiles en fait en jeu vidéo. Et on remarque des passerelles entre la série et le jeu vidéo qui sont de plus en plus fortes. Mais c'est aussi parce que maintenant, on a la possibilité de faire des jeux, ça paraît idiot, mais des jeux beaucoup plus beaux. Et du coup, tu te laisses plus voyager par un jeu qui te propose une cinématique qui ressemble à un film qu'un jeu tout pixelisé qui te propose une histoire. T'ennuies vite quand c'est pas beau à l'image. Et là, c'est plus le cas. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui permet maintenant d'avoir cette espèce de passerelle et cette espèce de frontière qui est de plus en plus floue entre le jeu vidéo et l'audiovisuel en général, puisque ça se limite pas aux séries. Et voilà, je trouve que c'est ultra intéressant de voir que finalement, les séries... Enfin, par exemple, Netflix a essayé, il y a quelques temps, de faire une série où on pouvait... interagir en tant que public, de voir que d'un côté comme de l'autre, en fait, c'est des médias qui évoluent et qui se rejoignent et qui, au final, donnent plein de nouvelles possibilités d'un côté comme de l'autre. Et moi, ça me rassure de me dire qu'il y a des espèces de trucs qui nous dépassent un peu des médias où on va pas trop savoir quoi en faire pendant un moment, mais qui finalement donnent des trucs géniaux. Les jeux vidéo qui sont maintenant adaptés en série, comme The Last of Us, enfin, je trouve ça génial, l'adaptation qu'ils ont fait. Le casting est super, tout est super. Mais en fait, quand tu regardes la série, tu te demandes s'il y avait vraiment besoin, en fait. C'est vraiment pour des gens qui veulent pas y jouer, je pense, ou qui veulent pas se taper 11 heures de gameplay. Mais ouais, je trouve que comme la frontière est de plus en plus floue, il y a un truc qui est en train un peu de nous dépasser, et c'est tant mieux. Ça a donné des objets qui sont vraiment intéressants.
Ouais, donc c'est très intéressant de voir que les jeux vidéo et le cinéma, comme tu disais, se nourrissent l'un l'autre, et ça engendre du coup de nouvelles possibilités de création. Mais on reproche souvent au cinéma aujourd'hui de devenir de plus en plus industrialisé et d'avoir de moins en moins de contenus originaux et créatifs, et également de moins en moins de prise de risque. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Après, je vais pas me faire l'avocat du diable parce que les licences dont je t'ai parlé de jeux vidéo, c'est des énormes licences qui rapportent énormément d'argent. Et donc pour le coup, c'est des grosses machines. Le jour où on adaptera une série d'un jeu vidéo qui est complètement underground, ok, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Après, je pense que, et ça fonctionne comme ça, il faut des grosses licences et des gros noms pour prendre les premiers risques et pour montrer que c'est possible. Et voilà, bon, après ça se fait pas forcément dans ce sens-là. Je pense qu'il y a plein de web-séries, de plein de trucs un peu indépendants qui échappent au grand public, et il doit y en avoir. Hein. Mais pour l'instant, je pense que c'est une nouvelle possibilité, mais je dirais pas non plus que c'est une prise de risque incroyable. Je veux dire, après le succès de The Last of Us, ça aurait été complètement idiot de pas l'adapter. Enfin, moi je l'ai vu et je me suis dit j'ai trop hâte de l'avoir en série.
Et donc tu penses que ça va se répartir sur d'autres créations de contenu, d'autres films?
Oui,
et d'autres
c'est sûr.
Séries.
Bah, par exemple, en France, on a la chance d'avoir des très très bons studios de jeux vidéo. Et du coup, ça donne la possibilité d'avoir de très très bonnes adaptations vite. Il y en a d'ailleurs dans les tubes. Il y a des gros titres français qui vont être adaptés, on le sait. Et c'est tant mieux. Mais aussi, en France, on a des très bons studios indépendants. Des bons studios de VR, etc. Il y a plein de gens qui croient pas en la VR, qui pensent que ça va être très bientôt terminé. Je sais pas si on a fait exactement le tour encore de l'outil. Mais oui, je pense qu'effectivement, ça donne une opportunité de se renouveler de ce point de vue-là, et surtout en France, en fait, parce que on l'a vu se renouveler au cinéma en France depuis la nouvelle vague. Enfin, y a eu des films géniaux depuis, hein. Je dis pas du tout le contraire, mais on n'a pas non plus fait sensation incroyable à l'international. Même si on n'a plus rien à prouver de ce côté-là, bon. Et en série, j'ai l'impression qu'à l'international, on nous attend toujours au tournant. Et ce tournant ne vient jamais. Donc on essaye, hein, et il y en a plein des très bien. Et c'est aussi pour ça que je fais ce boulot, hein, c'est parce que j'y crois. Enfin, c'est plus facile de parler à l'international quand tu parles en jeux vidéo que quand tu parles en fiction. Quand les frontières deviennent plus fines entre tous ces médias-là, que ce soit de l'animation, de la fiction ou du jeu vidéo, ça permet forcément de nouvelles choses.
Paradoxa, sur Radio Campus Paris, 93.9.
Alors, je suis chargée de développement chez Making Prod, donc c'est une société qui ne fait que de la série. Chargée de développement, donc c'est toute la partie écriture des projets, ça va de la sélection des projets à l'accompagnement. L'écriture de série, ça se fait en beaucoup d'étapes avec plusieurs intervenants à différents moments. Donc moi, j'encadre un peu toutes ces étapes jusqu'à la finalité dialoguée de chaque épisode avant que ça parte en production. Enfin, ce qui, nous, en série, nous différencie beaucoup du cinéma, c'est effectivement cette structure qui est très cadrée, qui est très calibrée aussi, et il y a des codes qu'on retrouve énormément dans toutes les séries, là où dans le cinéma, il y a effectivement plus de liberté pour aborder les sujets parfois différemment, là où en série, on peut aussi facilement se retrouver enfermé dans cette espèce de structure un peu rigide. Donc voilà, moi, quelque chose qui m'intéresse typiquement, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut emprunter au cinéma, et c'est là que la série a envie d'aller aussi, où il y a de plus en plus de réalisateurs de cinéma qui viennent faire des séries, où voilà, on est un peu moins le cousin beauf du cinéma qu'on pouvait l'être avant. Et voilà, essayer d'apporter une qualité aux séries comme il peut y en avoir au cinéma. Enfin, la série indépendante, par exemple, ça n'existe pas. Mais est-ce que ce serait possible de faire exister quelque chose qui serait de l'ordre de la série indépendante comme il existe le cinéma indépendant
Donc tu penses qu'il y a une montée en qualité de la série par rapport à avant?
Oui et non, parce que la série, en ce moment, il y en a plein. Il y a un peu un âge d'or de la série où énormément de séries, il n'y a jamais eu autant de séries, il y a tout le monde s'y met. Donc il y a énormément de déchets aussi, il y a énormément de très mauvaises séries, mais il y a aussi voilà, des nouvelles choses qui se font qu'on n'avait pas l'habitude. Après, je parle aussi spécifiquement du marché français qui n'est pas plus jeune, mais qui s'est construit un peu différemment du marché américain. Historiquement, les Français, voilà, ont fait du polar, du thriller, des adolescentes disparues, de flics que tout oppose. Voilà, on est dans des trucs, on est très identifié sur certaines choses et on a encore du mal à partir sur des thématiques parfois plus simples, même de la vie quotidienne. Il y a un gros mot en série qu'on ne peut jamais vendre ça. Nous, en France, c'est ce qu'on appelle les séries chroniques ou les dramédies. Il y en a très peu, ou alors elles sont portées par des gros talents. Florence Foresti, qui va parler de sa vie d'actrice, voilà. Ça existe assez peu encore dans le marché français. Du moins, on a du mal à proposer ça. Là où le cinéma arrive à aller sur ce type d'histoire.
Du coup, le format influence vraiment le contenu qui va être créé, selon toi ?
Ben, je sais pas, mais j'ai envie de penser que non. Le format en série, je pense qu'il permet d'aller plus loin dans la trajectoire des personnages. On profite d'un temps long. Donc, qui dit temps long, dit espace pour faire évoluer les personnages et les faire passer par plusieurs étapes, là où sur 1h30, 2h, on a, bah, par la force des choses, moins d'espace pour le faire. Donc, je sais pas si ça influence directement, mais ça permet des choses différentes. La série reste à l'origine un produit marketing, en fait. C'était des épisodes pour mieux faire revenir à chaque fois, pour faire une pause pub et mettre des annonceurs. Et que ce truc-là existe encore assez fortement et que oui, il y a des reboots. Enfin, je pense que ça permet aussi d'explorer d'autres directions. Justement, le fait qu'il y en ait plein, ça permet d'aller explorer des choses qu'il n'y avait pas la place de faire avant.
Il y a également, tu vois, les plateformes de diffusion comme Netflix, Amazon Prime, Vidéo, Disney+, et encore plein d'autres qui permettent de créer d'une manière différente parce qu'on passe pas forcément par toute la chronologie des médias. Comment, selon toi, les plateformes jouent sur la création de contenu ?
L'histoire de l'écriture en France, elle est très influencée par la nouvelle vague, par toutes ces choses-là. Là où les plateformes, par exemple, nous amène à écrire aussi différemment, à créer plus des ateliers d'écriture, par exemple, comme des rooms, comme les rooms qu'ils ont depuis très longtemps aux États-Unis pour écrire leurs séries avec une espèce d'efficacité aussi. Voilà, ça amène aussi des nouvelles méthodes de travail qui sont pas inintéressantes, qui plaît aussi, je pense, aux auteurs. Il y a un peu ce mythe de l'auteur dans sa grotte qui va pondre son scénario en une nuit, sur une espèce de truc providentiel, alors que, en fait, non, ils sont hyper contents de pouvoir travailler à plusieurs mains, de pouvoir rebondir, et c'est un savoir-faire qu'on n'a pas tant que ça en France et qu'on commence à construire, notamment grâce à l'arrivée des plateformes. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, là où c'est moins intéressant, c'est dans les propositions qu'on peut leur faire. Il y a des attentes très précises de leur part, et là où je te disais qu'il y a peut-être plus de liberté, finalement c'est pas forcément ces diffuseurs qui nous l'apportent non plus, parce qu'ils ont une idée très précise de ce qui va fonctionner chez eux ou pas. Et là où, enfin, par exemple, un Netflix qu'on pouvait attendre qu'un espèce de messie de l'audiovisuel, en tout cas je parle des séries et même peut-être un peu du cinéma, tu vois, qui pouvait produire toutes sortes de choses, aller dans des trucs très de niche. Ils l'ont un petit peu testé, ça n'a pas forcément bien marché, c'est pas forcément les bons projets, et ils en reviennent, et maintenant c'est une ligne éditoriale très précise qui se met en place et qui empêche un petit peu d'aller explorer des choses qu'on aurait aimé explorer avec eux. Après, moi, j'ai bossé sur des projets particuliers, tu vois, quand je suis arrivée, mon premier jour de stage, on m'a fait lire les dialogués de La Flamme, qui étaient en écriture. Donc en fait, je débarque, je lis ce truc-là, déjà je sais pas d'où ça vient, je sais pas que ça vient de Jonathan Cohen, ouais, machin, on me dit « alors qu'est-ce que t'en penses ?» Je n'avais rien compris. Enfin, vraiment, va lire les vannes sur un dialogué de La Flamme, tu comprends rien en fait, ouais. Tu dis « attends quoi, il y a une meuf qui a un cœur de singe,
ça n'a aucun sens. »
Et puis en plus, enfin, évidemment, c'était des dialogués qui étaient aussi une base, mais enfin, c'est quelque chose qui se joue beaucoup aussi en plateau, en fait.
Il
y a énormément d'improvisation. L'écriture de la comédie, c'est un truc qui est assez intéressant et qui, d'ailleurs, pour relier au cinéma, j'ai l'impression que la série... Moi, par exemple, j'aime mieux les comédies en série qu'au cinéma. J'ai pas théorisé le truc ni rien, mais j'ai l'impression qu'au cinéma, quand il y a la comédie... va très vite dans un espèce de divertissement assez grossier et n'installe pas la même façon ce truc avec le temps long où en série on arrive à faire de la comédie très liée aux personnages et à des drames humains de personnages, et ça crée de la comédie comme un Fleabag par exemple où c'est très drôle mais en fait c'est horriblement triste cette histoire. Et voilà, il y a un truc sur le cinéma de comédie, en tout cas en France, qui fonctionne peut-être un peu moins bien à mes yeux en tout cas.
Nous arrivons au terme de notre émission sur le cinéma et ses nouveaux modes de communication. Cette industrie se transforme peu à peu avec le numérique qui permet une interactivité de plus en plus forte avec les contenus créatifs. Les communautés de fans développent notamment des histoires qui agrémentent des sagas très connues du grand public. Cette démarche s'inscrit dans ce que l'on appelle le transmedia storytelling, qui a été théorisé par Henry Jenkins en 2003 et qui montre comment se développent des univers narratifs indépendants autour d'œuvres de fiction. L'arrivée des plateformes reconditionne le processus de création et de diffusion cinématographique. Cela pose la question de la pertinence de la chronologie des médias qui ne répond plus nécessairement au mode de fonctionnement du cinéma et aux attentes du grand public en matière de consommation des contenus notamment. Nous pouvons ainsi entrevoir les infléchissements à venir au cours de ces prochaines années qui transformeront durablement les industries créatives sur le plan créatif et économique. Les médias et le cinéma n'ont pas terminé de collaborer pour renouveler la création audiovisuelle et créer de nouvelles perspectives interactives et sensorielles pour le grand public. Merci à la participation de Pauline et Louise et à leurs témoignages sur les industries créatives. Nous avons également pu entendre des extraits d'une conférence avec le philosophe Régis Debray et le cinéaste Robert Guédignan à l'occasion du festival Histoire de cinéma de 2017 animé par Christian Thoire. Mais également des extraits de la conférence de Mélanie Bourda, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Merci à tous d'avoir été avec nous dans l'émission Paradoxa. C'était Ilona Priem. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt sur Radio Campus Paris.